Vous écoutez La Nuit Américaine.
Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit Américaine, le podcast cinéma qui vous plonge au cœur de l'univers du 7e art. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer la saison 3 avec une toute nouvelle version plus condensée en 4 rubriques simples et efficaces. Une première rubrique consacrée à une sortie récente en salle ou en SVOD afin de vous tenir informé des dernières pépites à découvrir sur grand écran ou dans le confort de votre salon. Suivi des bruits de couloir où nous aurons l'immense plaisir d'écouter Thomas tous les 15 jours nous décortiquer les rumeurs, les annonces, les potins qui agissent l'industrie du cinéma. Dans notre troisième rubrique, Lumière sur les films qui ont fait le cinéma, Mathieu vous fera découvrir un film dit de patrimoine, une œuvre emblématique qui a marqué l'histoire du cinéma et qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Enfin, dans notre quatrième rubrique, l'un de nos chroniqueurs vous partagera son coup de cœur, qu'il s'agisse d'un film, d'un livre, d'une exposition ou toute autre œuvre qui mérite d'être mise en lumière. Et pour inaugurer cette nouvelle formule, quoi de mieux que de plonger dans l'univers épicé de Dune partie 2. Après le succès retentissant de la première partie réalisée par le talentueux Denis Villeneuve, les attentes étaient grandes pour cette suite. Avec son casting étoilé, ses décors grandioses et son histoire captivante, Dune 2 a-t-il tenu toutes ses promesses ? Pour le savoir, nous allons faire un tour de table et saluer ceux qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui. Mathieu, Julien, Loris et Thomas. Bonjour les amis, comment allez-vous ?
Coucou, ça va, super.
Ça va ?
Oui.
Content de reprendre enfin ce podcast, cette saison 3,
ouais.
Nouvelle mouture.
Moi, j'ai relevé deux erreurs.
Ah, déjà.
Déjà, je fais chier.
Putain. Déjà, tu as parlé d'histoire exquise pour Dune, c'est ça ? Et non, Mathieu, tu regardes bizarre.
Deux erreurs, dont un oxymore. Tu as dit Denis Villeneuve, talentueux. Première erreur, ce n'est pas la saison 3, c'est la saison 5.
Ah ouais, ouais. Moi je pensais 4.
Ouais, mais
moi,
sur, pensais 4. Oui, mais sur Spotify, on est sur la saison, encore la saison 2.
Et n'oubliez pas que Mike, il lui manque le pouce et l'auriculaire. Hein, donc forcément,
c'est ça.
C'est difficile.
Bon, sinon, à part ça, c'était parfait. Hein. Ta présentation. Enfin, ouais. Je trouve que tu t'es
même
amélioré.
On est sur le même rythme.
Tu t'es amélioré. Ouais. Sur cette troisième, cinquième saison,
c'est encore mieux. Des petites bafouilles. Mais ça, c'est ça.
Ouais, ça bafouille.
Allez, avant, messieurs, avant de détailler vos impressions sur Dune partie 2, je vais vous demander à chacun de mettre une note sur 10 sur le baromètre de La Nuit Américaine. Loris.
Eh bien, moi, je vais mettre un solide 9.
Non, je rigole.
Non,
sortez-le.
Sérieux. Ouais, c'est 7, je pense, pour moi.
Ouais.
7, parce qu'en fait, est-ce que je peux...
Oui, vas-y.
Parce que, pour moi, c'est vrai que c'était une continuité du premier épisode que j'avais aimé, mais vraiment, comme on le disait avant, sans plus. En fait, tu regardes ça, tu es content de ce que tu vois, entre guillemets. Visuellement, je trouvais ça, moi, assez beau. Pour le 2, effectivement, je m'attendais à quelque chose de plus action, parce que je connaissais un peu l'histoire et je savais que, voilà, Paul Aka Mouadib allait un peu prendre les choses en main et puis il allait avoir une vraie, des choses qui allaient se passer à l'écran.
Une vraie tâche.
Ouais, une vraie tâche, etc. Ce serait un peu.
Comment ça, c'est une tâche ?
Non, qu'il aurait une vraie tâche dans le film, du coup, comparé au 1.
Alors, moi, j'ai plutôt aimé, en fait, les scènes d'action, le visuel, comment c'était mis en scène, aussi les relations. J'ai bien aimé la relation entre Shani et Paul, même si elle peut paraître un peu de surface à certains moments, mais tu as l'impression que le réalisateur veut montrer quelque chose, ou du moins ce que Frank Herbert voulait dire à la base, parce que c'était pas évident. Et surtout que... il y a ce côté faux messie que j'ai bien aimé, ce faux prophète, en fait, de comment tu perçois justement la quête de Paul, et comment est-ce que lui, il perçoit sa mission, et comment les autres la perçoivent, parce que finalement, lui, il dit qu'il n'est pas prophète, mais finalement, il le devient un peu. Comment tout ça est mis en scène, et puis voilà, donc j'ai plutôt, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont aussi un peu déplu, c'est la fin de certains personnages qui disparaissent comme ça. Le baron, par exemple, qui est un peu décevant. Donc, voilà.
7.
C'était un 7. Voilà.
C'est pas mal quand même, 7, hein, vu ce que tu.
Ouais. Parce que, comme dit, visuellement, j'ai pas passé un mauvais moment.
Okay.
C'était 2h30 où je me suis pas forcément ennuyé. Quoi.
Ok.
Je vais vite donner ma note à moi.
Vas-y.
Je vais donner, parce que je vais pas conclure, parce que sinon, voilà. Mais j'étais sur la même note, 7, parce que. Alors, je suis pas un spécialiste, j'ai pas les références certainement, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. J'ai trouvé beaucoup plus chaleureux que la froideur de la partie 1. J'ai trouvé effectivement que forcément cette partie 2 était portée plus sur le rôle attribué à Paul, hein, que le faux messie, comme tu dis, mais il devient messie. En fait, comment dire?
Malgré lui, tu veux dire?
Malgré lui, mais c'est aussi des événements extérieurs qui font penser que aux autres que c'est effectivement lui le Messie, alors que c'est parfois des trucs qui arrivent au hasard des choses. Et tu dis, oh, purée, merde, c'est lui.
Le côté où quand il refuse,
après,
il dit qu'il veut pas l'être, on lui dit c'est pour ça que c'est lui.
Voilà, il est trop humble, c'est pour ça. Mais voilà, j'ai aimé. Il dure quand même 2h46. Moi, les films de plus de 2h30, je les vomis presque parce que en fait, je m'endors à chaque fois. Là, je me suis pas endormi. Je l'ai trouvé beaucoup plus chaleureux parce que déjà, il y a la couleur dorée du sable. Enfin, voilà, c'est tout le temps dans. Je sais pas, c'est filmé où, dans le Wadi Rum ou en Jordanie ou quoi. J'ai l'impression que c'est.
C'est vrai qu'il voulait aussi tourner tout le temps dans le désert. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'intérieur un peu trafiqué.
Ouais, c'est ça. Il y en a eu dans les parties où il y a la piscine avec le baron, je sais pas quoi là. Mais j'ai trouvé effectivement ce décor super bien fait et que ça a donné beaucoup de chaleur et c'était en contraste avec mes impressions du premier où c'était un intérieur fermé, glacial, où il n'y avait rien du tout. Et ça m'avait beaucoup moins plu. J'ai passé un bon moment et franchement, s'il y a une partie 3, je ne sais pas,
c'est prévu.
Voilà. J'irai la voir. Avec enthousiasme la voir. Je ne sais pas si c'était écrit cette histoire d'amour entre Paul et.
Le truc qui est juste drôle, c'est que si j'ai bien compris, donc il y a eu le premier livre qui, à l'époque en 65, qui a été adoré par plein de gens. Mmh. Ensuite, il y a eu le deuxième livre qui est sorti. En fait, plein de gens étaient, lecteurs fans du premier opus, étaient déçus. Parce qu'il y avait tout ce côté, ils pensaient que Frank Herbert voulait faire vraiment passer Paul Atreides comme un messie. Vraiment, alors que Frank Herbert lui disait, non, moi, mon idée, c'est de vous montrer ce que c'est qu'un faux messie, un faux prophète.
Qu'il est horrible,
comment
en fait,
ça peut.
Enfin, c'est pas qu'il est horrible, mais.
Il est pas très.
C'est,
ouais,
ce qu'il va faire derrière, c'est.
Parce qu'en
c'est
plus, terrible, lui, il voit que ce qui arrive, c'est que du mauvais. Il va y avoir des morts, il va y avoir des guerres, à cause de lui qui devient empereur, en fait. Donc, il y a ce côté-là. Et du coup, Frank Herbert, en voyant la réaction de ses fans, avait écrit donc, un petit livre qui est la suite, qui s'appelle, je crois, le faux prophète ou d'une, je sais plus quel est le nom, pour un peu justement appuyer ce propos
qui est
de montrer qu'en fait faut pas juste prendre tout ça au pied de la lettre et vraiment de prendre ce côté prophétique comme quelque chose qui est pas noir ou blanc, hein. C'est vraiment selon la perception que tu as de ce qu'est un prophète, de comment il joue sur la manipulation des gens, ce que ça peut impliquer aussi, alors que finalement le prophète n'est que créé prophète, il n'est pas prophète comme tu le disais, souvent c'est des choses qui arrivent, des choses qui sont pas prévues, qui font que il devient prophète. Typiquement là, effectivement, ce qui fait que ce qui assoit sa position dominante, en gros, c'est de goûter ce liquide bleu là, des vers des sables, je sais plus comment ils appellent ça, et qui fait qu'il résiste. Est-ce que c'est il résiste pour une raison? Est-ce qu'il ne meurt pas pour une raison? Est-ce que est-ce que c'est finalement de la science? Où est-ce que tu mets
si je rebondis sur ça et puis je donne aussi ma note parce que c'est difficile finalement de donner une note, savoir si on a aimé ou pas. Mais si 10 c'est je vais le regarder régulièrement chaque année, tu vois, un peu comme je peux faire ça avec un Seigneur des Anneaux que je regarde avec plaisir. Celui-ci, effectivement, il va tourner autour entre 6,5 et 7, un truc comme ça où j'ai aimé le regarder, il y a des choses qui m'ont plu dedans et j'aime bien tout ce côté-là en fait, la première partie où on se concentre sur Paul et puis sur la relation qu'il a avec Shiny, c'est ça
Shiny.
Je n'ai pas lu le livre, ça me donne envie de le lire mais je connais pas l'histoire à l'origine. J'ai bien aimé ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup aimé la manipulation politique des
De
la mer. Non, justement, non, de comment elles s'appellent encore les
Générites,
matriarches, Gézérites, on les appelle.
Béné Gézérites, un truc comme ça.
Voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est une manipulation, tout ça. C'est elles qui mettent en place et qui bougent les pièces, en fait, sur l'échiquier, effectivement.
Parce qu'elles ont la préscience, quand même.
Ben bien sûr, mais tout a été fait pour. Et cette histoire de prophétie, c'est elle qui semble l'avoir inventée, tu vois. Et donc, ça, j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'on te fait croire qu'il y a quelque chose de vraiment prophétique là derrière et de sacré, si tu veux, qu'il y a vraiment quelque chose de bien. Et derrière, tu te rends compte qu'en fait, non, tout ça, c'est de la manipulation pour gérer le pouvoir. C'est juste ça. Ça, c'est un côté qui m'a bien plu. Il y a pareil deux trois choses qui sont peut-être un petit peu longuettes et qui sont un petit peu moins sympas. Le combat à la fin, pareil, comme dit, j'ai pas les références ni vu le spécialement le premier film, donc j'ai pas de comparo, si tu veux, à faire. Mais sur d'autres films, les scènes de combat et tout, tu sens qu'il fallait juste la faire et que c'était. Il y a des gens qui ont trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé ça c'était bien, mais pas forcément génial. Après, la musique aussi était. Autant j'aime bien de temps en temps quand le côté tribal, machin, tu vois, les sonorités, on en parle souvent. D'ailleurs, avec Mathieu, j'imagine qu'il va pas le louper au passage.
Bah, alors, mais juste avant
Zimmer, mais là, il y a des fois où j'étais dans la salle de cinéma, c'était tellement fort, tu vois, que ça en devenait presque gênant, quoi.
Ce film-là, il m'a fait comprendre pourquoi les gens détestent Hans Zimmer. Non, mais c'est vrai. Là, j'ai vraiment compris le côté assourdissant. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est l'enrobage sonore, c'est-à-dire tout ce qui est bruitage, etc. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé. Donc, si tu mets la bande son à part, quoi, hein, vraiment. Et c'est vrai que, comme on le disait, c'est tout ce mix, tout ce mélange très, très, très fort des fois, et tu as du mal à faire le distinguo entre la BO et l'enrobage sonore. Mmh. Et quand tu fais attention, je trouve que voilà, c'est plutôt bien restitué. Après, moi, il y a un truc qui m'a. Juste avant qu'il détruise le truc, ce qui m'a un peu.
Vous ne voyez pas, mais Mathieu, il est en shadow là. Hein, il nous attend.
Moi, ce qui m'a un peu déçu, juste, c'est quand tu regardes Dune 1 et Dune 2, en fait, moi, j'ai juste une envie, c'est soit de lire le livre, bon pour le coup, soit d'avoir une œuvre qui me permette vraiment de comprendre toutes les tout ce que tu disais là, toutes les intrications politiques et tous les petits schémas, parce qu'en fait c'est méga dense apparemment, il y a des guildes, il y a des trucs un peu à la Game of Thrones, quoi, c'est super profond. Et par exemple, moi je me dirais qu'une série HBO sur Dune écrite par tu vois, ou par des scénaristes qui ont l'habitude de choses bien épaisses pour bien avoir quelque chose de costaud comme ça me plairait. Et là, dans le film, j'arrive pas trop à. Il me donne plein de choses.
Ouais, merci.
Qui me donne envie. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus à ce niveau.
C'est le souci des grosses œuvres comme ça que tu dois adapter. Il faut essayer d'en ressortir.
Tu dois. T'as donné ta note? Parce que t'as parlé, mais.
Ah, j'ai dit entre 6,5 et 7. Parce que.
Alors fixe une. Parce qu'il faut qu'on. Bon, vas-y, 7. Vas-y,
mets 7. 7.
Ok. Ça marche. On parle.
Parce que je me suis pas endormi non plus.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que les bruits de Hans Zimmer m'ont aidé à pas dormir.
Mathieu, ta note
5,5. Sur le premier, j'aurais mis 5, et que j'avais pas tellement aimé, mais c'est encore correct, 5, tu vois, c'est la moyenne.
Là,
je mets 5,5. En fait, déjà, très rapidement, je suis extrêmement surpris, non pas par vos avis, mais par l'avis général. Les critiques sont extrêmement dithyrambiques, que ce soit presse ou spectateur. Et je le disais en off, pour moi, c'est surprenant, mais à la fois extrêmement révélateur de notre époque, des films qu'on nous propose. Denis Villeneuve est considéré comme un auteur. Pour moi, je ne l'explique pas, mais il y a sûrement une raison. Et qui fait des blockbusters d'auteur. Donc, ce qui signifie que ce sont des films à grand spectacle, mais avec du fond. Donc, normalement, qui sont assez édifiants, tu sors de la salle, t'es plus intelligent qu'avant qu'ils soient rentrés. Moi, j'ai des doutes, hein. Bon, j'ai tendance à peut-être être plus idiot en sortant de la salle quand j'ai entendu Hans Zimmer, ça c'est possible aussi. Mais je trouve que la promesse du blockbuster à grand spectacle, elle n'est pas tenue. Elle n'est pas tenue dans la mesure où, quand je veux voir ce genre de film, surtout avec l'annonce qu'on me donne, j'attends effectivement du spectacle, j'attends de la mise en scène, quelque chose de spectaculaire, j'attends des combats. J'entends aussi des comparaisons où on dit c'est le Seigneur des Anneaux du film de SF. Je pense autour de cette table, il y a quand même des fans du Seigneur des Anneaux. Les batailles dans le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose.
Oui.
Là, c'est d'un ennui.
On est d'accord.
Découpé, mais n'importe comment. Les scènes de combat, même le combat final. Je ne sais pas si vous vous souvenez du combat final dans le Dune de Lynch. Il était un peu pourri, mais il était rigolo. Là, c'est une catastrophe. Et pour faire, je n'aurais pas fait une comparaison avec le film de Lynch, parce que moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais la différence du film avec le Villeneuve, c'est que chez Lynch, il y avait de l'audace. On tentait des choses. C'était pas toujours réussi, c'était même souvent loupé, mais au moins on tentait des trucs. Chez Villeneuve, c'est plat, il n'y a aucune idée. Les méchants, les Harkonnen, que ce soit dans le roman ou que ce soit chez Lynch, ils sont roux, ils sont un peu dégueulasses, il y a des pustules, même il y a quelque chose de sale, même sexuellement, il y a quelque chose d'incestueux qui les accompagne. Chez Villeneuve, c'est simple, hein, parce qu'on n'est pas très malin, et puis qu'il faut en même temps donner des règles très simples pour que ce soit compréhensible pour tous. On en fait des nazis psychopathes. Donc du coup, sans aspérité physique ni rien, sauf le truc, on leur rase les
cheveux.
Ils sont tout lycée, en fait.
C'est ça. Ils sont lissés. Parce que du coup, comme il n'y a pas d'aspérité dans ce genre de film, on lisse. Pourquoi on les lisse? Parce que du coup, ils ne représentent pas une monstruosité. Ils n'ont pas besoin d'être monstrueux, puisque de toute façon, on les a nazifiés, finalement. Et comme le nazi est quand même le personnage, le méchant ultime, qu'on n'a pas besoin donner de profondeur, tu vois, de créer un personnage, tu vois, avec, je sais pas moi, avec des sentiments, des raisons ou quoi que ce soit. On a juste à le poser là, à mettre un gars, on dit, écoute, on va te raser le crâne, on t'enlève les sourcils, et tu fais, et tu as un visage fixe, un peu dans le vide.
On va te faire trancher les gorges.
C'est Freezer.
Se lève le matin, il tranche une gorge. Et va content, il tranche la gorge.
Et du coup, c'était le méchant. Mais en fait, moi, je trouve ça, en fait, c'est comme dit, c'est hyper révélateur des films de blockbuster aujourd'hui où il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'idée de mise en scène. Le spectacle, moi, je le trouve assez naze parce qu'il y a beaucoup de films, en fait, de ce type-là qu'on a vu à travers les années qui sont plus spectaculaires que celui-là. L'intérêt, c'est du schisme un petit peu religieux, effectivement, du faux prophète. Mmh. Je trouve que c'est l'idée intéressante, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisamment développée. Vraiment. Et moi, c'est ça qui me tenait un petit peu en haleine parce que
avec la mère, c'est pas trop mal, quoi. Mais le truc, en fait, il reprend les travers du premier.
C'est-à-dire c'est ça.
La
fait,
première
c'est une répétition, en fait.
Concentré sur Paul et sur la fille, c'est pas mal parce qu'on s'intéresse à quelque chose et on avance sur un personnage. Et après, Mathieu, je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est que moi, la partie intéressante, c'était effectivement le plot un peu religio-politique qui était pas mal avec la mère aussi qui devient aussi un peu.
Comment le djihad se forme?
Comment est-ce que inéluctablement en fait une doctrine qui est mise en place et comment tu manipules les gens et c'est pas mal, ce côté-là était vraiment bien, mais c'est vrai qu'on recommence à avoir un petit peu ça, un petit peu l'histoire comme dit Mathieu qui est un peu léché. C'est vrai que le coup du noir et blanc, moi j'ai eu beaucoup de mal avec
parce que c'est pas une idée de mise en scène, c'est pas une idée de mise en scène parce que c'est le truc facile, comme on veut donner en fait une différenciation de ton et de on joue sur les couleurs, on sait que pour le spectateur lambda ça va être en noir et blanc, on va montrer des nazis, donc là forcément c'est le mal, c'est les méchants, et puis les autres ça va être très coloré avec
une sorte
du sable chaud,
en fait,
machin et tout, pour créer une opposition. Donc on est sur des trucs très très simples. Rapidement aussi sur là quand on lit aussi dans la presse, ils font le parallèle, ceux qui le portent au nu, le film, par rapport à la situation politique actuelle. Mais c'est d'une facilité. Le gros mot à l'époque, quand il est sorti, c'était pareil. Tu peux tout transposer. Donc, à partir du moment où on y trouve, pour une certaine presse, qui plus dans la presse écrite, quand tu y trouves soit une volonté morale ou une volonté de faire une analogie avec l'environnement géopolitique actuel, tout d'un coup, c'est un film vertueux, c'est un film édifiant, c'est fantastique. Moi, je trouve ça un peu facile. Bon, bref. Et je vais juste conclure avec Hans Zimmer. Vous en doutez que j'allais en parler. Vous l'attendez. J'en parlais tout à l'heure en off. C'est devenu un véritable sujet. Pas Hans Zimmer, mais en fait, ce qu'il a fait à la musique de film depuis de nombreuses années, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Moi, effectivement, je m'en cache pas, je n'aime pas trop ça. Il y a un gros problème à Hollywood par rapport au travail du monteur, des monteurs de son, qui explique de tous qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le sound design et la musique se confondent. On ne sait plus, en fait, on a du mal de plus en plus à dissocier, en fait, les éléments musicaux, les éléments, en fait, intradiégétiques, des combats ou ce genre de choses, ou même des dialogues ou autre. Et que c'est devenu, en fait, même une demande des studios et des spectateurs de pousser les potards à fond, de proposer des murs de son, parce qu'ils pensent que ça nous donne le sentiment d'être immergé dans le film. Mais cette immersion, pour moi, en fait, elle a pas de lieu d'être, parce que l'immersion, dans la plupart des films que moi j'aime, c'est uniquement mon avis, quand la musique y participait, parce qu'il y avait des thèmes. Je prends un truc très simple pour faire un parallèle très facile. Prenez Star Wars. Les personnages ont des thèmes musicaux. John Williams, il fait un thème pour Darth Vader, il fait un thème, peu importe pour la situation, il y a un thème. Donc toi, en tant que spectateur, tu entends les premières notes. Déjà, il y a une émotion qui se crée parce que tu sais ce qui va survenir. Tu comprends, en fait, ça, c'est tel personnage, ça, c'est telle situation. Et le thème joue sur ça. Le thème, en fait, musical participe de la mise en scène. Là, comme je pense qu'il y a très peu de mise en scène, je ne dis pas que ce n'est pas des tâcherons, pour mesurer ce que je dis, il y a des grands professionnels sur ces films-là, c'est pas des bras cassés, mais du coup on ne s'embête pas à jouer de la mise en scène de l'image et du son pour créer en fait une ambiance sonore, une ambiance aussi, tu vois, visuelle. On n'a pas besoin de ça, on balance en fait des flots d'images et un mur de son. Il y a des explosions et puis des contrastes en fait avec des couleurs noires ou jaunes pour qu'on ait le sentiment d'avoir plein la vue. Je trouve ça un peu triste.
Messieurs, merci d'avoir donné votre avis sur Dune 2, partie 2. J'ai pas envie de frustrer quelqu'un, couper la parole à quelqu'un, mais il est temps pour nous de passer à la partie qu'on attend, avec impatience.
Bien sûr, on veut savoir.
La deuxième partie de cette émission, les bruits de couloir, première rubrique de notre talentueux Thomas.
Hello.
Bonjour Thomas.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Oui, content de vous retrouver.
C'est vrai, nous aussi, hein, ça fait longtemps et puis cet enregistrement est l'occasion pour nous de partager une viennoiserie. Mais c'est tout. Donc Thomas, vas-y, on t'écoute, c'est les bruits de couloir. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler des rumeurs de séparation entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner. Non.
C'est pas du tout. Ah, mais je savais même pas qu'ils étaient ensemble.
Ouais, c'est ça.
Ils se sont affichés en faisant des bisous pendant
c'est la sœur
de Golden Globes.
C'est la sœur de celle qui a le.
Oui, de Kardashian.
C'est Kardashian.
C'est
Kardashian.
C'est ça.
Ah, c'était un drôle de mime.
C'est la voluptueuse Kardashian.
Un fan nous l'a mimé. Un fan de l'AS Saint-Etienne qui se met avec Kardashian. Bravo. Tu savais pas ça, hein?
Ah bah si, je sais, mais d'ailleurs beaucoup spéculent en se disant qu'il va peut-être sauver le club, parce que maintenant il y a des tractations de savoir est-ce qu'il va mettre des billes dans le club. C'est des conneries.
C'est des conneries, mais, il va rien mettre, mettre les pieds au stade.
Nos amis stéphanois sont contents.
C'est des bruits de couloir dans du football, vas-y.
Voilà, non, mais plus sérieusement, je vais plutôt revenir sur ce qui a animé le milieu du cinéma pendant le mois de février et le mois de mars, c'est forcément les périodes de récompense. Et vous savez combien je frétille particulièrement pendant cette période-là. Donc, je vais commencer par la cérémonie des Césars qui s'est tenue le 23 février dernier. C'était la 49e cérémonie. Et donc, comme c'était attendu et on l'espérait, donc Anatomie d'une chute a quand même tout raflé puisqu'ils ont pris les prix principaux, notamment meilleur film, meilleure réalisation, scénario, actrice pour Sandra Hüller. C'était plutôt attendu, le film étant célébré dans le monde entier et récompensé de partout. On s'attendait à ce qu'il arrive sur la cérémonie, tel un rouleau compresseur, et donc il finit en beauté ce qui avait été entamé à Cannes avec sa Palme d'Or. On en avait d'ailleurs parlé dans cette émission. Et à noter que pour Justine Triet, qui repart avec le César de la meilleure réalisation, on dit bien réalisation aujourd'hui, on ne dit pas le César du meilleur réalisateur. Hein.
Ça a changé.
Ça a changé, on parle bien de réalisation.
La rhétorique est importante.
Mais c'est historiquement parlant, c'est quand même important, puisque c'est seulement la deuxième femme à remporter le prix de la meilleure réalisation. La précédente, c'était quand même il y a 24 ans, c'était en 2000, avec la regrettée Toni Marshall, qui l'avait eu pour le film Vénus Institut Beauté. Donc, Toni Marshall était la seule détentrice depuis tout ce temps, et maintenant Justine Triet vient une nouvelle fois ouvrir la porte, et on espère que ça ouvrira la porte à d'autres femmes scénaristes, sachant que cette année il y avait 3 femmes qui étaient nommées dans la meilleure réalisation. À noter également, on ne l'oublie pas, on en avait parlé et on en avait dit que du bien dans cette émission, c'est Le règne animal qui ne repart pas bredouille, il part avec 5 prix, alors c'est plutôt des prix techniques, et à noter quand même le prix assez surprenant, mais fortement mérité des meilleurs costumes, puisque souvent c'est toujours les costumes, c'est toujours je vais donner un exemple,
Sissi l'impératrice,
oui, les trois mousquetaires, toutes ces choses là des films très historiques, et ils ont et l'Académie a reconnu le travail sur les costumes, puisque on sait que dans le film ils ont minimisé le recours au numérique, c'était quand même beaucoup de vraies textures, des vraies plumes, de la
FX,
peau d'animaux, des FX, etc. Donc du coup, c'est une vraie surprise. D'ailleurs, la costumière récompensée qui est venue sur scène était sans voix. C'était un des meilleurs.
Elle s'y attendait pas.
Ah, elle était émue et sans voix, parce que je pense que vraiment elle se disait bon.
Voilà, là j'ai rien prévu.
Elle avait rien prévu, mais merci. C'était hyper hyper chou. Donc du coup, Règne animal, voilà, on en a dit beaucoup de bien dans l'émission, et on disait c'était quand même un beau film de genre avec qui a eu un gros succès en 2023. On sait combien le cinéma français se tourne de plus en plus vers ce cinéma-là. Donc c'est bien que l'Académie les reconnaisse aussi, parce que c'est le cinéma de genre est rarement récompensé au César. À noter également, forcément, Raphaël Quenard, qui était très attendu. C'est le
nouveau chouchou du cinéma français.
C'est le chouchou du cinéma français. Alors, moi, je pense que personnellement, je ne suis pas le plus grand fan. Je pense qu'il peut vite lasser, parce que c'est quand même un genre de personnage. Mais c'est vrai qu'il a
avec son intonation, son phrasé, tout ça, ça peut vite.
Il a l'art des bons mots. Donc, il a le meilleur espoir masculin pour Chien de la casse, qui est un film que personnellement je n'ai pas vu, mais dont j'ai entendu le plus grand bien. Et il a le César du meilleur discours. C'est-à-dire que vraiment, c'était excellent. Génial. Parce que vraiment, généralement, vous savez, il y a le petit moment musique pour leur dire, bon, dégagez là.
Et là, ils l'ont même pas mis.
Ah, si, ils ont mis la musique, mais il a dit, bon, ça y est, la musique commence, donc c'est le moment émotion, donc c'est là que je remercie ma famille et tout ça. Donc il en a vraiment joué et la salle, elle est morte de rire. Donc il a vraiment fait son show. Je souligne également là, sur les Césars, la nique faite à Christopher Nolan, qui était très très drôle, puisque Christopher Nolan, il faut savoir qu'il est quand même venu pour récupérer un César d'honneur, mais il était aussi nommé en César étranger pour Oppenheimer. Et on se disait, vu qu'il s'est quand même, pointé, on va lui donner. Déjà qu'on a une grande star américaine comme ça, un grand réal américain. En plus, là, cette année, il écrase tout sur son passage. On s'est dit, pour la peine, il va repartir avec un prix. Et non, c'était une des plus grosses surprises de la soirée. C'est la petite comédie canadienne Simple comme Sylvain de Mona Chokri qui est repartie avec le prix. Elle-même, elle ne s'y attendait pas du tout. Et donc, je peux te dire que là, on voyait qu'il faisait la gueule dans son siège. Hein, mais au moins, on ne s'est pas prosterné devant le dieu Nolan.
Mais il a eu un petit gift bag quand même.
Et il a eu quand même son petit cadeau avec son petit César d'honneur. Et à finir tout de même, évidemment, je reviendrai plus longuement dans une autre émission dessus, mais le moment le plus, je pense, attendu de la soirée, c'était le discours de Judith Godrèche. C'était un long discours de plus d'une quinzaine de minutes, qui donc venait dénoncer les abus sexuels sur les femmes et sur les mineurs dans le milieu du cinéma. Elle-même qui venait de porter plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Donc elle est venue parler longuement sur la scène. Le discours était remarquable, je le trouvais vraiment remarquablement écrit. Et il paraît, bruit de couloir, que même dans les couloirs des Césars, le temps s'est arrêté, c'est-à-dire que tout le monde regardait l'écran de télévision et était scotché à son discours. Elle a dénoncé notamment dans son discours un trafic illicite de jeunes filles dans le milieu du cinéma et son omerta.
Et sa plainte vient, alors d'après ce que j'ai compris, c'est en réaction à la réaction de Benoît Jacquot, c'est ça, à sa mini-série disponible sur Arte, c'est pas ça? Elle n'a pas une mini-série disponible sur Arte
Benoît Jacquot, si je ne me trompe pas, il devait avoir un film, je crois, qui devait sortir, qui a été repoussé.
Il y a eu un reportage. C'est qui l'a... Gérard Miller qui a interviewé...
J'en parlerai dans une autre émission.
D'accord, ok.
Tout à fait.
J'ai un peu mélangé plein d'histoires.
Mais t'as raison, c'est Gérard Miller.
Après, la bonne nouvelle, c'est que du coup, l'avenir devrait nous épargner des films de... Benoît Jacquot et Jacques Doyon, qui sont quand même des purges. Donc merci en fait qu'on puisse en être débarrassé.
C'est ouf, hein, ils font de la purge et des conneries, c'est merveilleux.
Mais ils avaient la carte dans le cinéma français, comme beaucoup. Ils étaient considérés comme des auteurs intello, mais en fait mon cul quoi.
Enfin, ça me fait peur hein, ce genre de sujet, parce que quand tu prends du recul et que maintenant tu vois les bouches se délient, c'est-à-dire on commence un petit peu à balancer des trucs comme ça, mais c'est impressionnant hein, dans tous les milieux, que ce soit aux États-Unis, ça fait pas longtemps qu'on a eu aussi une belle histoire de leur côté, hein, et tu te dis que c'est quand même dingue hein, cette ambiance que certains mecs sont capables de mettre quoi dans ce milieu, c'est fou quoi.
On t'a coupé dans ta rubrique, tu voulais continuer sur quoi?
Du coup, pour les Césars, j'ai fait le tour. C'était vraiment une bonne cérémonie. Après, ils avaient plusieurs présentateurs cette année, donc je trouve que ça apporte du dynamisme, même si tous les sketchs ne sont pas drôles, mais ça apporte du dynamisme. Et au niveau des Oscars, donc je reviens sur les Oscars, une cérémonie qui est beaucoup plus attendue, forcément, parce que c'est le prestige Oscar, mais qui est moins surprenante, parce qu'il s'est précédé par plusieurs salves de prix, etc. Évidemment, donc c'est Oppenheimer qui a tout raflé. Là, Christopher Nolan a bien eu son Oscar du meilleur réalisateur, mais accompagné du meilleur film, meilleur acteur pour Cillian Murphy. Robert Downey Jr. a eu son meilleur acteur dans un second rôle. Il était d'ailleurs, c'est marrant, face à Mark Ruffalo, qui était aussi nommé pour Pauvre Créature, mais c'est Iron Man qui a bien reçu son Oscar.
Mark Ruffalo qui l'a mérité. Hein.
Tout à fait.
Mark Ruffalo, pour moi, c'était vraiment le meilleur comédien dans un second rôle. Il était incroyable.
Et d'ailleurs, donner, c'est pas un peu honorifique aussi quand on donne un truc comme ça?
Oui,
bah. Peu, tu vois, il n'y a pas que ce rôle-là, on a donné aussi un peu pour.
Bah, en plus, Robert Downey Jr., tu sais, il a toujours un peu cette image à Hollywood, ce gars qui a plongé dans la drogue.
Oui,
dans
voilà,
l'alcool,
c'est ça.
Qui
en gros, c'est un peu l'effet, comment il s'appelle, celui qu'on a donné l'année dernière, quoi.
C'était qui? Ah, Kiyu. Alors, le nom, Kiyu Kwan, là, le... C'est l'année dernière, c'était.
Ouais, moi je pensais pas à lui, moi je pensais à celui qui a fait The Whale.
Ah, Brendan Fraser. Fraser.
Tu vois, ouais. ce truc un petit peu où, bon, le rôle est pas mal. Ouais. Et puis, comme il y a un comeback, on est sorti d'une histoire pas possible, une vie difficile, une vie professionnelle aussi compliquée, du coup, on te donne un peu ça.
Puis après, il y a beaucoup de lobbying aussi qui sont faits par les studios.
C'est ça.
À noter la victoire surprise donc de Emma Stone sur Lily Gladstone. C'était la guerre des Stones cette année dans la meilleure actrice. Donc c'est Emma Stone qui repart avec son deuxième Oscar pour Pauvre créature. Soit dit en passant, on n'en a pas parlé, mais j'adore ce film.
Étrangement, j'ai bien aimé aussi.
Oui, parce que toi, j'aime
pas trop l'Antimos, mais il était vraiment bien celui-là.
Ouais. Et donc Lily Gladstone qui était pourtant une des favorites puisque elle avait joué dans Killers of the Flower Moon Martin Scorsese, elle était très bien. Ça aurait été aussi tout un symbole puisque ça aurait été la première femme amérindienne à recevoir un Oscar. Donc c'est pourtant Emma Stone qui l'a eu. À noter The Zone of Interest dont on n'a pas parlé dans cette émission, mais dont je pense le plus grand bien, qui est reparti avec le meilleur film étranger et surtout le meilleur son, et c'est totalement
horrible,
logique et mérité.
C'était le meilleur film de la compète.
Ouais. Ah oui, clairement.
Là, pour le coup, c'est un des rares chefs-d'œuvre qu'on ait pu voir ces derniers temps.
Je l'ai vu hier soir. Pour...
Ah ouais,
ouais.
C'est vrai.
Grand film, j'ai adoré.
Donc, Jonathan Glazer, qui aura d'ailleurs fait, je pense, le discours le plus marquant de la soirée, un discours politique. Et on sait qu'aux Oscars, ils n'en font pas forcément. Ça reste généralement plutôt consensuel, puisqu'il aura fait un message de paix pour le Proche-Orient, qui est miné par la guerre entre l'Israël et Gaza. Et il aura fait un parallèle avec son film, puisqu'il aura parlé d'une guerre qui montre comment la déshumanisation mène au pire. Et à noter quand même que Justine Triet et donc Arthur Harari repartent avec l'Oscar du
meilleur scénario.
Et ça fait bien la nique à la délégation française, puisque je vous rappelle qu'il n'était pas nommé en meilleur film étranger, ce qui était incompréhensible. Mais en même temps, quand on trouve les raisons en fouinant quand même un peu, puisque comme si vous en souvenez, le gouvernement n'avait pas particulièrement aimé le discours politique de Justine Triet au moment de recevoir sa Palme d'Or à Cannes en mai dernier. Du coup, elle a été gentiment évincée. Ils avaient proposé à la place la Passion de Dodin Buffon, qui était beaucoup plus, on va dire, un peu plus académique, et qui s'est fait complètement snobber, qui n'était même pas nommé au final dans la shortlist du meilleur film étranger. Et clairement, si le film de Justine Triet avait pu être nommé, clairement, il était un gros compétiteur face à The Zone of Interest, il l'aurait peut-être eu. Mais elle repart quand même avec son Oscar pour le meilleur scénario original. Donc, cocorico, et je terminerai sur moi mon petit moment coupable de la soirée, mon petit plaisir coupable, c'était la performance de Ryan Gosling sur I'm Just Ken, qui était extraordinaire, puisqu'il commence la chanson sous un ciel rose, et en fait, il commence la chanson, t'as Billie Eilish qui est derrière morte de rire, et après, il commence un peu à s'avancer, et à la caméra, bah, forcément, t'as sa Barbie, Margot Robbie, qui elle aussi ne devait pas s'y attendre, et est morte de rire, et le gars, il est à fond dans sa chanson, après, il monte sur scène avec Mark Ronson, et tout ça, et il a fait lever tout le public.
C'est niveau Broadway, hein, quand même, les mecs, il se lève au milieu de la soirée, il fait son show.
C'est les Américains. Là, tu vois que on n'y arrivera jamais à ce niveau-là.
Ça, c'est ce niveau, clairement, mais c'est vraiment le niveau, comme on dit, de ces artistes de Broadway qui sont capables de faire des shows, chanter, danser, courir. Tu vois, c'est des trucs, nous, quand tu regardes des grandes stars qui font des shows incroyables, souvent, c'est pas leur micro qu'on entend, parce que quand tu entends les vraies voix, il y a eu plein d'affaires comme ça, où les mecs, ils sont hors de souffle, ils en peuvent plus, c'est très compliqué de danser, chanter, sauter, et tout faire en même temps. Et là, en plus, il y a une qualité de représentation qui est folle. Ouais, donc, clairement.
Donc c'était le bon moment, et je termine juste par un petit moment, un petit coup de plaisir, je pense, pour vous. La victoire dans le meilleur film d'animation de Miyazaki qui a terrassé le Spider-Verse, puisqu'il repart à 83 ans avec son deuxième Oscar. Voilà.
Merci Thomas, c'était une très belle rubrique, merci pour toi.
Je peux juste me permettre une petite parenthèse par rapport à Zone d'intérêt. C'est quand même surprenant, en 60 ans, certains critiques français n'ont pas bougé d'un iota sur je sais pas si j'en ai déjà parlé sur une affaire à l'époque, ça s'appelait l'affaire de Capot par rapport au travelling. L'usage du travelling, on disait que c'était une affaire de morale, c'était Rivette qui avait fait tout un papelard là-dessus il y a 60 ans pour expliquer qu'on n'avait pas le droit de filmer les camps, de faire en fait, de filmer les camps, mais surtout de faire de la mise en scène, de mettre en scène en fait Auschwitz et la catastrophe de la Shoah. Et tu entends encore des journalistes aujourd'hui en France, je pense à Xavier Le Harper qui dans Au Masque et la Plume ou dans Le Figaro, des gens qui disent non mais on n'a pas le droit, ce sont des films dégueulasses parce que moralement, tu vois, enfin c'est, on n'a pas le droit de faire ça. Et je me dis mais en 60 ans, il y en a qui sont encore figés effectivement sur cette doctrine qu'avait imposée Rivette au Cahier en 1960-61 et il y en a qui bougent pas. Alors il faut quand même rappeler que non, mais la morale n'a rien à voir là-dedans et que la morale est affaire de travelling, pour reprendre Godard.
Merci. Ben, on va te laisser la parole, Mathieu. Oui. Il est temps de passer à la rubrique Lumière sur un film qui a fait le cinéma. Mathieu, tu vas nous parler dans cette rubrique de quel film ? Vas-y, raconte-nous.
Alors je parlais de Macbeth. Alors Macbeth, donc c'est un film de 1948 réalisé par notre ami Orson Welles. On a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises d'Orson Welles, principalement qu'on a fait une émission sur Citizen Kane. J'invite tous nos auditeurs qui n'ont pas écouté à écouter cette fabuleuse émission parce que nous étions particulièrement bons. Oui. On a aussi parlé qu'on a traité de Mank. Bon bref, c'est un peu la figure tutélaire du cinéma américain, du cinéma mondial. Orson Welles a rencontré de grosses difficultés après Citizen Kane, on en avait déjà parlé, c'était très compliqué, il était plus dans les petits papiers des RKO, plus personne voulait en fait produire ses films. Et c'est un passionné de théâtre, c'est un passionné de Shakespeare et du cinéma, et il a voulu en fait, parce que la différence de certains cinéastes comme des Denis Villeneuve, c'est qu'il fait preuve de beaucoup d'audace et qu'il ose des choses. Et le type se dit ok, moi je vais réaliser un film, donc une adaptation de Macbeth, avec peu de moyens, et je vais tout en fait préparer en amont. Donc le film en fait, il a été conçu selon une méthode de fabrication qu'il a lui-même mis en place, c'est-à-dire tout va se faire en répétition. On va répéter avec des comédiens, on va répéter dans un théâtre, on va se produire plusieurs fois pour savoir exactement où seront les marques, comment on va se positionner, et je vais enregistrer en fait la bande-son sur un disque. Et lors du tournage, je diffuserai la bande sonore et on aura juste à poser nos lèvres là-dessus, tu vois, forme de playback en fait, qui va mettre en place. Pour rappel, il avait déjà en fait fait une adaptation au théâtre de Macbeth, c'était le fameux Macbeth vaudou qui était mis en scène en 1936, donc que avec des acteurs afro-américains, chose qui n'existait évidemment pas à l'époque, tu vois, aux États-Unis, c'est impossible de faire une adaptation comme celle-ci, donc au lieu d'avoir des sorcières, on avait des vaudous. Et du coup, il se lance dans le tournage de ce film. Il va rejoindre Republic Pictures. Republic Pictures, c'est une société de production qui est habituée aux séries B. Enfin, ils font des westerns, des trucs comme ça. Et en fait, ils ont besoin, une fois de temps en temps, d'avoir un film un peu prestigieux. Donc, c'est pour ça que John Ford ou la Wells ont tourné des films chez eux. Donc, ils donnent un peu plus de pognon. Mais c'est pas non plus des budgets magnifiques, hein. C'est même compliqué de trouver, en fait, de savoir combien ça a coûté. Parce qu'il y a des variations entre 75 000 dollars, ce qui paraît improbable, et 900 000 dollars. Ce qui paraît plus convenable, mais si c'est 900 000 dollars, il semblerait de toute façon qu'il n'ait pas tout dépensé. Et donc, du coup, il écrit plusieurs moutures du scénario pour faire cette interprétation. Et lui-même joue Macbeth, donc il fait non pas simplement une adaptation, mais une réinterprétation du mythe, parce qu'il va couper même des séquences pour jouer en fait sur le libre arbitre du protagoniste. Donc il va mettre en opposition l'avènement du christianisme, donc parce que Macbeth ça se passe c'est 11e siècle, l'avènement du christianisme qui va s'opposer, tu sais, au paganisme. Donc le paganisme qui est représenté par les sorcières. Il prend 8 rôles, il y a 8 rôles principaux, il fait appel à ses collègues qui est du Mercury Theater avec lesquels il avait déjà travaillé sur Citizen Kane, et vont se produire à l'University Theater de Salt Lake City du 28 au 31 mai 47. Donc ils vont répéter cette pièce-là. Et après, ils vont faire en fait 21 jours de tournage. Pendant 21 jours, ils vont tourner ça. Ils vont tourner cette pièce avec quasiment très peu de décors. Des décors que lui-même va faire. Il va faire les décors, il va faire les costumes. Donc les décors, ils font très papier-mâché. Hein. T'as vraiment l'impression que ça pue le fake. Mais c'est pas grave parce que ça participe aussi, tu vois, à l'ambiance du film. Il va demander aux comédiens d'avoir un accent écossais. Ce qui est un peu complètement con parce que finalement, même si ça se passe en Écosse, les Écossais ont parlé anglais seulement à partir du XVIIe siècle. Mais bon, ça veut pour donner un certain cachet au film. Il va faire des plans séquences de 10 minutes. Un plan séquence, mais truc de fou, faut rappeler qu'une bobine de film, c'est 11 minutes. Hein. Et lui, il fait un plan séquence de 10 minutes avec un jeune directeur de la photo qui s'appelle John L. Russell, qui avait déjà travaillé comme cadreur pour Wells sur le criminel. Et là, c'est son premier film en tant que directeur de la photo. Parce qu'il peut que prendre des gens qui n'ont pas tellement de thunasse, enfin qui n'ont pas d'expérience, et du coup qui coûtent pas cher. Et ils vont faire ce plan séquence qui va expliquer en fait la manière dont Lady Macbeth va en fait pousser Macbeth à tuer en fait le roi. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est Macbeth qui rencontre des sorcières qui lui disent ouais, toi tu vas devenir roi. Mais pour devenir roi, il va falloir qu'il commette des crimes. Et donc tout le film en fait est bercé en fait par la culpabilité qu'il éprouve. Comme je disais, il fait ce film-là en 21 jours de tournage et après il faut passer en post-production. Post-production, il doit monter le film. Et c'est là en fait où ça va commencer à partir en couille. Parce que l'ami Orson Welles est toujours accaparé par d'autres projets. Parce qu'en même temps, il part en Europe pour tourner Cagliostro, il prépare une adaptation de Cyrano au cinéma qui ne verra jamais le jour. Et donc du coup, il fait son montage en Italie. Donc il monte le film en Italie, en France, un peu partout en Europe, et il y a aussi son producteur associé, Richard Wilson, qui lui s'occupe de la post-synchronisation aux États-Unis. Donc imaginez à l'époque, aujourd'hui on a des ordinateurs, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais t'as un mec qui monte le film, l'image, en Europe, l'autre qui fait la post-synchro aux États-Unis, et puis après il faut tout regrouper. Donc ça prend un an. Republic Pictures, il pète un câble, il dit mais attends, tu nous as promis un tournage en 21 jours, très bien, mais là tu fais une post-production qui dure un an. Un an de post-prod, il présente le film, donc on est en juin 48. Les mecs se disent putain, c'est pas ouf ton film. Il va le présenter au Festival de Venise en septembre 48. Les retours sont extrêmement mauvais. Mauvais à un point où Orson Welles dit ok, je le retire de la compétition. Ils vont le sortir aux États-Unis en octobre 48. Faut savoir, on l'a déjà expliqué, aux États-Unis à l'époque, tu faisais pas des sorties nationales sur 4000 écrans. Tu présentais le film dans une ou deux salles dans des grandes villes. Là, il a fait à Salt Lake City parce qu'ils avaient déjà répété la pièce là-bas. C'est une catastrophe. Le film est extrêmement mal reçu. Donc les mecs lui disent, écoute, c'est simple. Il y a plusieurs raisons. C'est déjà ton accent écossais, là, faut arrêter. Faut redoubler le film. Il y a aussi des scènes en fait, qui ne conviennent pas. Il faudrait couper le film. Si tu veux adapter Macbeth au cinéma, il faut savoir que c'est un film qui durerait plus de 3 heures. Lui, on a tiré un film d'1h45 et lui demande de retirer 20 minutes encore. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, ils repartent en montage. Il va demander à une actrice, qui s'appelle Janet Nolan, qui tournait avec lui, qui joue le rôle de Lady Macbeth. C'est une actrice pour qui c'est le premier film, son premier film. Elle n'a jamais fait de théâtre. Mais elle travaillait déjà avec lui à CBS parce qu'elle faisait beaucoup, vous savez, c'était ses pièces radiophoniques pour lesquelles il était aussi extrêmement connu parce qu'il avait fait donc La Guerre des Mondes, exactement. Et donc, c'est une actrice qui peut prendre plusieurs accents, qui peut tout faire. Donc, elle doit, en post-synchro, réinterpréter son rôle, mais aussi d'autres personnages. Donc, elle imite les voix. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un montage d'1h26, avec des moments qui sont post-synchronisés avec un accent nouveau, anglais, américain, classique. Et puis, des parties où c'est avec un accent écossais, très guttural, où tu ne comprends pas. Il y a des moments effectivement qui sont coupés, donc tu ne comprends plus grand-chose au film. C'est cette version-là qui va sortir au cinéma, en 1950. Bien sûr, c'est une catastrophe. Film, enfin, c'est comme une merde. Orson Welles, lui, est déjà passé à autre chose. Hein. Lui, il est en train de préparer Othello en Europe. Lui, bon, ben, tant pis, j'ai essayé une technique, ça a foiré, mais finalement, c'est pas grave. Et puis plus tard, en fait, le film va ressurgir. C'est un film qu'on a retrouvé dans les 70-80, et on a retrouvé en fait la bande initiale, celle d'1h47. Et là, putain, en fait, on se rend compte qu'on a affaire à un chef-d'œuvre. Vas-y, le mec, il a fait un film de fou. Il y a déjà, vous savez, cette mise en scène qu'on voyait dans Citizen Kane, où il y a déjà un peu plus de thunes, hein, où on a Greg Talland, qui était le plus grand chef opérateur de l'époque, mais il y a encore cette mise en scène avec ses contre-plongées et ses plongées. Vous souvenez, ces contre-plongées où on disait, bah, c'est parce que ça permet aussi que le spectateur ait le sentiment d'être au théâtre. Donc ça participe de ça, mais ça participe aussi de soit le Macbeth, une espèce d'ascendant sur les autres personnages, et des fois avec des plongées où on sent qu'il est écrasé en fait par le poids de la culpabilité, par effectivement ses démons intérieurs. Il y a le fameux travelling du début du film avait été coupé, charcuté pour la sortie de 1950. Là, on le revoit dans son intégrité, il est extraordinaire. C'est même pas tant en fait, c'est là la beauté des plans séquences de l'époque.
À différence d'aujourd'hui où tu fais des plans séquences pour tout et n'importe quoi, pour juste montrer que tu es virtuose, mais il faut savoir que tu as une Steadicam. Garrett Brown, en 1948, il n'a pas encore créé la Steadicam.
Mais pourquoi il ne l'avait pas vu à Venise, du coup, quand il fait la première...
Qu'est-ce qui a fait switcher le point de vue des gens?
En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout la critique américaine. La critique américaine n'a pas compris, en fait, déjà ne comprenait pas les dialogues. Pour nous, Européens, c'était plus simple. Quand ils présentaient à Venise, il faut savoir en fait, qu'ils n'ont pas encore fait ni le doublage. Et du coup, nous, on s'en rend pas tellement compte, mais il y a quand même une grande délégation américaine qui est déjà sur place, qui dit, mais attends, ton film, il est imbitable. On comprend pas, en fait, les dialogues. Et en plus, surtout, ben, il a fait un truc qui pour beaucoup est un sacrilège, c'est qu'il a coupé les dialogues. Tu vois, il y a même des dialogues, en fait, il a fait ce qu'on appelle des schitomiti. Alors, je sais pas trop bien le dire, stichomiti. Stichomiti, en fait, c'est le fait de réécrire un petit peu les dialogues pour les donner plus percutants. Tu vois, donc c'est vraiment le blasphème ultime, c'est que réécris, tu vois, tu coupes, tu réécris d'une certaine manière les dialogues, tu vois, de Shakespeare pour donner plus d'intensité aux scènes. Et c'est ce qu'on appelle donc les stichomiti, c'est ce qui va lui mettre en place. Donc beaucoup vont lui reprocher ça, tu vois, de couper même des séquences. Il y a une scène, l'apparition de la déesse Hécate aux trois visages qui rejoint normalement dans la pièce, qui rejoint les sorcières. Celle-ci est coupée. Donc lui, il dit, je l'ai coupée parce que lui, il part du principe que c'est des scènes apocryphes qui finalement ont été rajoutées par d'autres plus tard. Donc, en plus, il s'inscrit même dans une espèce, tu vois, d'exégèse, tu vois, de la pièce, en intellectuel, tu vois, et artiste. Donc, beaucoup lui ont reproché, en fait, tous ces trucs-là. Il y a aussi les jeux de lumière. Je sais pas si vous vous souvenez dans Citizen Kane, les jeux de lumière, les contrastes entre les noirs et les blancs qui étaient fabuleux. Là, pareil, il y a ce travail qui est sur l'image. Il y a un truc qui est aussi assez dingue, c'est l'utilisation de la voix off. Ça, il a souvent fait. C'était déjà le cas. Et en fait, pour pas que ça donne le sentiment, c'est qu'on est au théâtre et que c'est les mecs, ils font des soliloques, tu sais, et puis ils s'adressent en fait à toi, en fait, plutôt au spectateur. C'est un dialogue d'introspection, mais en même temps, ils s'adressent à toi, spectateur. Bah là, lui, comme le cinéma, il peut jouer sur la voix off. Et ce qu'il fait, c'est qu'il commence le monologue et le monologue devient un chuchotement. Et le chuchotement se transforme en voix off. C'est hyper ingénieux. C'est un truc tout con, tu vois. Mais quand tu te dis que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces, je pense, des pièces qui sont adaptées au cinéma, on est très souvent dans le théâtre filmé. Là, le mec, il cherche en fait n'importe quel moyen pour t'extraire en fait du sentiment que tu es au théâtre. Et pourtant, malgré tout, tu sais que tu es au théâtre parce que tout est un peu fake. Les costumes, ils sont fake au possible. Mais c'est tellement ingénieux. Là, pour le coup, il y a tellement d'audace, que ce soit dans l'écriture, dans l'interprétation, dans la mise en scène, que ça en fait un film vraiment fabuleux. Il y a cette fameuse tirade. Alors c'est la tirade la plus connue, je ne vais pas la faire en entier, hein. La tirade de Macbeth quand il dit « La vie, c'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » En règle générale, quand tu fais cette tirade-là, tu fais un gros plan sur le gars, sur le protagoniste qu'il a dit. Tu vois. Alors, gros plan pour montrer l'intensité du truc. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle est dite en voix off, et c'est illustré par des nuages et par de la brume. Pour montrer en fait que tout ça, en fait, si ce n'est rien... Si la vie ne signifie rien, c'est que t'as pas besoin d'exposer en fait un protagoniste. Tu vois, c'est tout est un peu évanescent comme ça. Et il y a plein de partis pris de ce formaliste, de ce type-là. C'est un film qui est fabuleux, mais vraiment, c'est un film qui est pas facile. Je l'ai montré à ma compagne, l'a regardé. Elle m'a dit que c'était assez ardu parce qu'effectivement, le texte, tu le regardes en VOST. Le texte est très difficile. Vraiment, moi, je trouve que c'est un texte qui est compliqué. L'histoire. Même si on la connaît tous, c'est un peu compliqué pour entrer dedans malgré tout. Mais visuellement, c'est un truc de malade. Quoi. C'est, moi, je trouve, fait avec 3 francs 6 sous, il y a tellement d'idées. C'est un film incroyable. Aujourd'hui, c'est considéré comme un des classiques d'Orson Welles. Mais effectivement, je vais en parler parce que ça fait partie de ces films qui, avec les années, se sont bonifiés. Non pas parce qu'ils étaient moins bons à l'époque, mais parce que notre regard, notre acuité de spectateur a aussi évolué.
Il y a eu un Macbeth des Cohen, non? Il n'y a pas longtemps.
Uniquement Joel Cohen.
Est-ce qu'il essayait de rattraper, de faire un hommage du coup, parce que c'était en noir et blanc, il me semble. Est-ce que c'était un hommage un peu à Orson Welles, ce film?
Moi, je ne l'ai pas perçu. Hein. Je ne sais pas si c'était son intention.
Je l'ai vu, mais.
Ouais, je n'ai pas tellement l'impression. Moi, je trouve pas mal. Donc, c'est avec Denzel Washington. Ouais. Le film est pas mal. Mais je trouve qu'il manque beaucoup aussi quand même de grâce par rapport au film d'Orson Welles. Juste pour finir, il faut savoir quand le film sort, au même moment, pour dire aussi l'état d'esprit en fait des films de cette époque-là, des adaptations théâtrales qui plus est, Hamlet
sort en salle Hamlet de Laurence Olivier. Donc Laurence Olivier, le peut-être le plus grand acteur britannique, tu vois, enfin là on parle vraiment, quand tu as Laurence Olivier qui fait une adaptation d'Hamlet, c'est la Shakespeare Company qui se déplace, tu vois. Donc c'est un truc un peu fastueux, un peu clinquant. Et là, c'est un film qui dure beaucoup plus longtemps. C'est bon, il fait pas un film d'une heure vingt. Il adapte Shakespeare comme Kenneth Branagh l'a fait, tu vois. Kenneth Branagh le fait, ça dure 4 heures. Et puis on veut être proche, tu vois, très proche, au mot près, à la syllabe près du texte. Mais lui, notre ami Wells, lui fait le pari de faire une réinterprétation. Et je trouve ça, pour le coup, super couillu et de nouveau brillant.
Voilà. Merci Mathieu, ce fut très intéressant. J'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de découvrir ce film.
Est-ce que tu sais comment le trouver du coup ? C'est vraiment que, j'imagine, DVD, non, achat, tout. Il y a une VOD.
Je crois que tu peux le trouver en VOD. Moi, effectivement, je l'ai en DVD. Mais maintenant, il est assez facile d'accès.
Okay. Voilà. Okay. Merci encore. Il est temps pour nous de passer à cette quatrième partie, la rubrique des coup de cœur. Qui s'y a-t-elle aujourd'hui ? Quelle œuvre mérite d'être mise en lumière ? Alors, qui prend la parole ? C'est à qui ?
Écoute, Lolo et moi, on a des trucs en commun, vu qu'on regarde, on joue, on fait un peu beaucoup de choses ensemble. Et bon, du coup,
rappelez à tout le monde que vous êtes frères.
C'est ça. Oui, ça aide. Et du coup, Lolo, ouais, il a eu l'idée de mettre un truc en avant, de mettre une série qu'on a regardée, qui lui-même m'a conseillé. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Donc, on va parler de ça, tous les deux.
Voilà. c'est une série en fait d'animation qui s'appelle Scavenger Reigns.
J'aurais dire un peu plus.
Scavenger Reigns. Donc en gros, c'est traduit littéralement le règne des ferrailleurs. Je sais pas comment on dit scavenger. En gros, un scavenger, c'est quelqu'un qui traîne et qui ramasse plein de matériaux pour en faire quelque chose. En gros. Donc ça se traduit pas spécialement sur cette série, puisque l'histoire en fait, c'est donc une série d'animation de science-fiction.
Charognard.
Ah, le Charognard, ok.
Le Dico traduit ça comme ça.
Et du coup, en gros, donc c'est HBO. À la base, donc les créateurs sont Joseph Bennett et Charles Whitner, qui en fait, à la base, avaient fait un court-métrage qui s'appelait juste Scavengers, et qui racontait un peu une histoire un peu similaire, qui est des explorateurs de l'espace qui vont s'échouer sur une planète et survivre. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu le synopsis de cette série-là, puisque l'histoire, c'est on a un gros vaisseau qui est un vaisseau de commerce, mais aussi de
recherche scientifique,
qui fait un peu plein de trucs, hein, c'est les gros vaisseaux spatiaux multi-usages. Et du coup, il se tape une grosse éruption solaire, tout part en sucette, il faut évacuer dans des pods, c'est un peu le synopsis classique de la SF. Il se retrouve donc sur une planète donc extrêmement belle, déjà, mais
foisonnante
de choses, mais extrêmement inhospitalière pour plein de raisons, parce que c'est une planète donc sauvage, comme toutes les planètes, j'imagine, extraterrestres. T'arrives, il y a des choses que tu peux faire et d'autres pas faire, parce qu'il y a une faune, il y a tout est très bien représenté. Et c'est ça qui est bien pour moi, c'est un peu ce que Avatar aurait dû être, c'est-à-dire qu'on représente vraiment tous les écosystèmes. Qui soit très dangereux mais aussi très accueillant, avec tous les dangers que ça peut engendrer. Et surtout, on voit bien que ces êtres humains arrivent sur cette planète de manière un peu naïve, c'est-à-dire qu'ils vont souvent essayer des choses et qui vont un peu partir en sucette, parce que touché cette plante. Enfin, voilà.
C'est qu'ils n'ont aucun code.
C'est
que la nature est très belle. D'ailleurs, la palette graphique est magnifique, les couleurs, le son qui est apporté dessus aussi, le travail du son est magnifique, autant que la musique que le bruitage, hein, c'est vraiment sympa. Ils ont tous été un peu. Il y a quelques survivants, je ne sais plus combien
Il y a trois duos.
Ouais, voilà, c'est ça. Rien. Ils sont pas ensemble. Ils se retrouvent sur cette planète. Et effectivement, ils ont aucun code. C'est-à-dire que la nature, même quand elle a l'air belle, elle peut être très hostile. Donc, je sais pas, l'exemple, c'est un arbre qui est magnifique, avec des fruits de loin. Ça a l'air très accueillant. Tu dis, tiens, peut-être que ça va être une source. Je vais pouvoir me nourrir. Et en fait, le fruit est vivant et il va t'attaquer. Puis il va te tuer probablement. Tu vois, enfin, il y a un truc comme ça. Donc, il y a vraiment l'univers dans lequel il se retrouve. Et très passif-agressif, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être très beau. Ils ont leur code, leur propre cette nature a ses codes, et ces gens-là doivent survivre là-dedans avec un but à atteindre. Mais et ils sont vraiment ils sont jamais sûrs de rien. Et autant des choses peuvent être très bénéfiques pour eux, les sauver, les soigner, les nourrir, et autant d'autres peuvent être extrêmement dangereux alors que ça a l'air très accueillant. Et c'est l'aventure est très bien écrite aussi.
Et outre la planète, c'est aussi les personnages qui sont bien écrits, parce que tous les personnages qui sont sur cette planète, qui arrivent, sont différents. Ils ont leur leur spécialité, etc. Et on va tacler du coup d'autres sujets, le transhumanisme, la robotique, l'IA. Voilà, c'est pas que la survie, c'est aussi tout plein d'autres sujets qui vont venir et se mêler pour comprendre un peu les motivations des personnages. Ils sont pas tous bons. Il y en a qui veulent vraiment survivre et s'entraider, et d'autres qui veulent juste peut-être même rester sur la planète parce qu'ils trouvent qu'ils s'en sortent mieux ici que sur Terre. Enfin voilà, il y a tous ces sujets qu'on a déjà pu voir. Et donc c'est vachement bien retranscrit. Et pour l'instant une seule saison, 10 épisodes. Et chaque épisode, c'est 22 minutes. Donc c'est vraiment.
Ça se regarde facilement.
Ça se binge de ouf.
Ah ouais. La seule difficulté, donc pour l'instant, c'est que vous pouvez le voir donc avec Amazon Prime, le Pass Warner et un VPN. Voilà.
Et un test sanguin.
Ouais, mais les deux reins doivent fonctionner. Voilà.
Mais sachez que ce sera dispo avec HBO Max. Qui arrive le 21 mai en France.
Il faut un budget pour toutes ces plateformes.
Mais bon,
c'est dingue. Hein.
Pour le coup, si vous aimez quand même les trucs un peu construire, chercher, et vous êtes client HBO de base, HBO Max, franchement.
Et si vous aimez la BD, le dessin animé, c'est.
Ah, ça pour le coup, oui. Donc, et les influences esthétiques, c'est donc on est sur du Mobius. Clairement, si vous avez lu par exemple la BD Aldébaran, c'est clairement, on est là-dedans. Voilà. Donc.
Non, c'était classe.
On a adoré. Génial.
Eh ben, merci messieurs, merci pour ce coup de cœur, ce premier coup de cœur de cette nouvelle saison, nouvelle mouture de la nuit américaine. Merci à vous d'avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que cette nouvelle saison ainsi que les saisons précédentes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, n'oubliez pas d'interagir avec nous, de mettre des notes. Dorénavant, vous pouvez mettre des notes sur Spotify. Et puis, on se dit dans 15 jours pour un nouvel épisode.
Oui, petit mot de la fin. Ah. Je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui avait un auditeur qui nous avait envoyé un message très gentil en demandant qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi il y a
pourquoi on a arrêté. Parce que, pourquoi on a arrêté.
Merci pour la question.
Hein, oui, merci. Parce que même nous, on se pose la question. On avait besoin de repos. On lui a dit qu'on faisait une petite pause pour renouveler un petit peu, pour créer une nouvelle mouture, un peu plus courte, un peu plus punchy, un peu plus facile à écouter. Et toujours aussi captivante. Et voilà, il nous avait dit qu'il y avait deux mauvaises nouvelles, du coup, que l'émission serait plus courte et que je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, en tout cas, j'espère qu'il arrivera à trouver son compte dans cette nouvelle mouture, qu'il peut nous écrire.
Et puis, pour lui faire un bisou.
Un big up à lui. Et puis, à bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.